c'est un objet qui se transmet. Notre invité Afrique, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, l'institut a enquêté sur la radicalisation des jeunes au nord du Bénin. Afrique Économie au Ghana, les producteurs de cacao inquiets pour leur avenir. Et avant le journal, Maman nous parle ce matin de crise post-électorale. Avant tout ça, c'est l'heure des sports en direct avec Babacar Diarra. Bonjour Babacar.
Bonjour Arnaud.
En football, la deuxième journée de la phase de poule des éliminatoires de la CAN 2025 se poursuit aujourd'hui. Réaction attendue pour le Sénégal en plein désamour avec son public.
Pas certain que l'horaire du match disputé à 13h TU au Malawi, mais face au Burundi, mobilise les supporters sénégalais. Vendredi à Diam Niadio, les Lions étaient sortis sous les sifflets après le nul concédé à la dernière minute contre le Burkina Faso. Le sélectionneur à Lucissé, sous le feu des critiques depuis un bon moment, doit impulser une réaction de ses joueurs. Le défenseur Abdou Diallo, justement, a pris sa défense au micro de Babacar Fall.
C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain. On n'a pas l'habitude de se cacher ou de se trouver des excuses. Donc le coach met un plan de jeu en place, mais c'est nous qui l'animons, c'est nous qui jouons et qui avons la décision finale. Donc évidemment, on ne se cache pas. On a nos responsabilités à prendre et il va falloir qu'on réponde présent. On est habitué à jouer très régulièrement, souvent tous les trois jours, et à avoir l'opportunité de, entre guillemets, se racheter et de performer trois jours plus tard. C'est le cas aujourd'hui. Donc on a vite basculé sur le match d'après. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer, même si on aurait aimé. Mais par contre, ce qui doit être fait, j'espère, va l'être. Il n'y a aucun match qui est facile. Et donc on s'attend à une équipe du Burundi qui va venir, qui va vouloir gagner, puisqu'ils ont gagné leur premier match. Et c'est normal, ça fait partie du football, donc nous on doit être prêts à ça.
Le Sénégalais Abdou Diallo avant d'affronter le Burundi, seul leader du groupe L après son succès face au Malawi.
Dans le groupe F à présent, les leaders, l'Angola et le Soudan, s'affrontent tandis que leurs victimes de la première journée se retrouvent au stade municipal de Berkane, au Maroc.
C'est là que le MENA du Niger reçoit entre guillemets les Black Stars du Ghana. Le Niger était tombé au Soudan et les Ghanéens avaient été surpris à la dernière minute par les Palancas Negras. Ce deuxième match peut donc débloquer leur compteur de points. C'est l'espoir d'Omar Sakho, défenseur central du Niger.
On se porte bien, tout le monde se porte bien dans le groupe. On est là pour un but précis, on va essayer de donner le maximum pour pouvoir prendre les trois points.
Tout va bien, le groupe, il y a un bon mood, l'ambiance est parfaite, tout va bien. On s'entend mieux, il y a la solidarité, voilà, on essaie de... Puisqu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de jeunes, on essaie de ramener les jeunes un peu, voilà, pour savoir pourquoi nous sommes là, effectivement, réellement. Donc, on essaie de donner un peu le la maturité à certaines personnes et puis voilà, pour que ça aille mieux.
Alors, comment comptez-vous aborder le Ghana ce lundi?
Avec beaucoup de respect, mais pas de timidité surtout. Beaucoup de respect, mais voilà, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu aux entraînements et on espère, Inch'Allah, que tout ira mieux pour nous. C'est un match de football, hein, 90 minutes, tout est possible. Tout est possible. Nous, on se focalise sur nous, on se concentre sur nous et après, on va voir comment ça va se passer. On s'entend mieux, il y a l'ambiance et tout est parfait. Donc, on attend le jeu du match seulement.
Coup d'envoi de Niger-Ghana, 15h TU. À noter aussi ce lundi les matchs des voisins congolais, tous deux vainqueurs lors de la première journée. Le Congo défie l'Ouganda à Kampala à 16h. La RDC va en Tanzanie pour défier l'Éthiopie à 19h.
En rugby, Siya Kolisi quitte le top 14. L'amour du maillot sud-africain a pris le dessus sur son défi français.
Le capitaine des Springboks a choisi de mettre fin à son contrat avec le Racing 92 où il avait fait ses débuts en décembre. Derrière cette décision, il y a la volonté de continuer de jouer avec son équipe nationale incompatible avec les exigences du rugby européen. Kolisi retourne donc avec le club des Sharks à Durban.
Merci à vous, Babacar Diarra. Vous revenez dans une heure dans RFI Matin.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
À la une ce lundi 9 septembre et dans le prochain journal, l'Algérie et la réélection d'Abdelmadjid Tebboune en grand favori de la présidentielle. Le sortant est crédité de 94,65% des voix. Les deux candidats de l'opposition n'ont obtenu que 2 et 3% des suffrages. Le camp du candidat islamiste parle de mascarade. La guerre en Ukraine et l'appel du chancelier allemand, Olaf Scholz demande d'intensifier les efforts diplomatiques pour parvenir à la paix. On sera à Berlin à 7h. Au Proche-Orient, au moins 7 personnes, dont 3 civils syriens, ont été tuées hier soir dans des frappes israéliennes qui visaient des sites militaires dans le centre de la Syrie, parmi eux un centre de recherche scientifique. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui précise que des groupes pro-iraniens et des experts en développement d'armes sont présents sur les lieux. Dans l'actualité également, le pape François qui continue sa tournée en Asie du Sud. Après la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est arrivé au Timor-Oriental. On fera un bilan à mi-parcours de cette tournée avec notre notre correspondant Grégory Pless à la une en Asie, c'est dans 30 minutes.
RFI à Dakar, 92 FM.
Le pagne tissé à l'honneur. RFI vous propose en ce début de semaine de nous intéresser à cette étoffe qui est présente partout sur le continent africain. Les pagnes tissés s'affichent dans la vie quotidienne comme dans les moments exceptionnels. Cette série de trois reportages nous mène d'abord au Sénégal. Ici, les pagnes tissés sont dans toutes les maisons. Les tisserands tissent ces riches étoffes qui accompagnent tous les moments clés de la vie, baptême, puis mariage et décès. Ces pagnes se transmettent dans les familles comme un fil entre les générations. Reportage dans le quartier de Médina à Dakar avec Juliette Dubois.
Dans une petite maison du quartier de la Médina, Maremso vit avec sa mère Binta. Cette quinquagénaire pleine d'énergie ouvre les placards et sort des valises cachées sous des lits pour nous faire découvrir sa collection de pagnes tissés.
On peut aller voir les autres aussi.
Non, attends, il y a beaucoup de bagages là-bas, je vais aller voir.
Les précieuses étoffes sont enroulées avec soin et protégées du soleil qui peut abîmer les couleurs vives.
Vous avez beaucoup de pagnes ?
Oui, j'ai beaucoup de pagnes. Moi, ça, c'est très joli. Ça, c'est maman qui l'a acheté ? C'est notre tradition.
Ces pagnes tissées et brillants aux motifs géométriques sont des trésors de famille. Certains ont été offerts pour les baptêmes de ces quatre enfants.
Si on a un baptême, on offrit les pagnes là. Tout ça, on m'a offert ça. Le mari de ma fille, sa maman qui m'a donné ça. Chaque personne me donne une pagne pour lui porter la bonne chance, la réussite. Ce sont des pagnes de chance.
D'autres sont encore neufs et seront offerts pour les naissances à venir dans la famille. Les bandes de tissu d'une vingtaine de centimètres seront alors assemblées pour faire un grand pagne.
Je l'ai acheté pour préparer pour mes petits-fils.
Là, c'est pour les petits-fils.
Ouais. Qui n'ont pas encore né encore. Je me prépare en avance.
J'ai acheté ces tissus il y a longtemps. J'ai l'habitude d'en acheter quand j'ai de l'argent et de les garder, ou j'appelle un Ndiago pour qu'il m'en tisse un que je conserve.
Les pagnes réalisées par des Ndiago, des tisserands Mandjak installés dans le quartier de Fas, accompagnent toutes les célébrations. Ils sont aussi utilisés au moment du mariage ou encore au décès pour recouvrir le mort, comme l'explique Binta Ndoy, la mère de Marem, qui a 87 ans.
Le reste des pagnes, je les garde. Je ne le souhaite pas, mais en cas de décès, cela va servir à couvrir le corps jusqu'au cimetière. Ensuite, on me ramènera le tissu que je conserverai.
Un beau pagne noir et orange est déjà destiné à un futur défunt. Ces traditions sont aussi une richesse qui se transmet. Les petits-enfants de Marem conserveront eux aussi les étoffes chez eux. Et certains des pagnes tissés qu'elle nous présente étaient déjà à la grand-mère de Marem.
On l'a vu souffrir à ses enfants. La maman, lorsqu'elle est décédée, ces pagnes, on les donne à chaque enfant un pagne pour souvenir.
Chaque pagne que Marem range dans son armoire est une pièce et une histoire unique. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et demain, suite de nos reportages autour des pagnes tissées en Afrique, on sera au Ghana. Notre invité Afrique à écouter dans moins d'une heure sur RFI maintenant. Bakary Samb, le directeur régional du Timbuktu Institute, le fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. L'Institut a mené une longue enquête sur la radicalisation de certains jeunes au nord du Bénin. Qu'est-ce qui explique qu'ils basculent dans le djihadisme? Pour Bakary Samb, le chômage des jeunes est un facteur évident de radicalisation.
Oui, des jeunes des communautés qui ont participé à l'étude perçoivent donc de ce point de vue la radicalisation et l'extrémisme violent comme un refuge pour faire face aux différents problèmes sociopolitiques, socio-économiques. On voit notamment dans la Donga comment les groupes extrémistes violents arrivent à instrumentaliser ces griefs, notamment les questions d'injustice, d'inégalité. Par exemple, ce jeune qui nous aborde en disant « Est-ce qu'on pourrait l'aider à entrer dans un groupe extrémiste violent ?» Parce que ça fait des années qu'il essaie d'entrer dans l'armée, mais ne connaissant personne, appartenant à une certaine ethnie, il se sent exclu. Et donc, pour lui, il voit dans ces groupes-là un refuge pour justement lutter contre ses griefs et sortir de la marginalisation.
Autre facteur de radicalisation, dites-vous, dans les provinces du nord du Bénin à majorité musulmane, la compétition religieuse entre prédicateurs, les uns salafistes, les autres de la confrérie soufie Tidjania.
Oui, on le voit bien, ces velléités internes au sein de la communauté musulmane, aussi bien dans la Donga comme à Djougou ou à Waké, expriment le degré d'ancrage des courants wahhabites qui contestent les groupes soufis comme la Tidjania. Là, les prêcheurs bâtissent toute une stratégie basée sur l'humanitaire et le travail social et on voit que ces organisations, via des ONG qui reçoivent des financements, commencent à se substituer à l'État. Et on voit là une dynamique qu'on a connue dans le Sahel dans les années 70 et qui commence à devenir une véritable réalité dans le nord du Bénin. Bref, une stratégie de remplacement de l'État et en même temps une stratégie double basée sur, d'une part, la dawa, la prédication, et de l'autre côté, la irasa, le secours humanitaire, de sorte qu'aujourd'hui, il y a une compétition des courants religieux, une lutte entre ces courants religieux, notamment le salafisme wahhabite et la Tidjania, qui aujourd'hui est menacée par cette offensive de la Dawa.
Bakary Samb d'une Tibouctou Institute en ligne avec Christophe Boisbouvier. On écoute l'entretien en intégralité tout à l'heure. Un coup d'œil au programme d'appel sur l'actualité. Juan Gomez attend vos appels autour de la possible dissolution de l'Assemblée au Sénégal pour mettre en œuvre les politiques de rupture qui ont été promises durant la campagne. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a besoin d'une majorité au Parlement. Alors va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale dès jeudi prochain? Son parti peut-il remporter les élections législatives anticipées? Vos analyses, vos réactions, il nous intéresse. Vous appelez le standard 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous pour appel sur l'actualité des 10h10, heure de Paris.
RFI à Accra, 89.5 FM.
Afrique économie au Ghana aujourd'hui, où le lancement de la nouvelle campagne de cacao devrait être annoncé dans le courant de cette semaine. La dernière campagne, elle a été marquée par une forte baisse de la production. Moins 55%, une mauvaise récolte causée notamment par le changement climatique. Les premiers à en souffrir, ce sont bien sûr les producteurs. Rencontre avec quelques-uns d'entre eux. Reportage de notre correspondant au Ghana, Victor Cariou.
Comme chaque matin, Akwasi Mpafo fait le tour de son exploitation de 6 hectares qu'il gère seul dans la commune de Jouaben. Cette terre s'appelle Aman Paman, j'y suis très heureux. À 66 ans passés, dont 20 en tant que producteur de cacao, Akwasi Mpafo a aujourd'hui du mal à subvenir à ses besoins.
C'est plus compliqué de cultiver du cacao aujourd'hui, le climat a changé. Les pluies ne sont plus les mêmes, les jours de soleil non plus, ça demande beaucoup plus d'attention.
Autre problème, le prix des produits de traitement et de désherbage qui augmente dans un Ghana en crise économique où l'inflation dépasse encore les 20%. Compliqué donc de lutter contre les maladies qui, à l'image du virus de l'œdème du cacaoyer, attaquent les cultures partout dans le pays. Un constat partagé par son voisin Emmanuel Akweni, également producteur de cacao. Une cabosse infectée à la main.
Il y a des points noirs dessus, ça veut dire qu'elle a été attaquée par des insectes.
Emmanuel Akweni voit donc sa production baisser tous les ans. Et ce n'est pas la hausse du prix du sac fixé par le régulateur du cacao ghanéen, un peu plus de 2000 cédis, les 64 kg pour cette saison, qui va réellement changer sa situation.
On veut plus, un sac à 3000, 3500 cédis. Avec le prix actuel, pour survivre, je suis obligé d'emprunter à la banque ou à mes proches.
Pourtant, ni lui ni Akwasi Mpafo ne comptent vendre leurs exploitations, seules terres qu'ils possèdent. Pas question par contre que leurs enfants se lancent à leur tour dans le cacao, un problème de transmission généralisé ici au Ghana et qui risque de mettre à mal les productions futures. C'est en tout cas ce que pense Richmond Frimpong, journaliste spécialisé en agriculture basé dans la ville de Kumasi.
Personne, aucun jeune surtout, ne souhaite se lancer dans la production de cacao. Déjà parce que la majorité des jeunes ne disposent pas de fonds pour obtenir une terre à cultiver. Ensuite, parce que le secteur du cacao ne promet pas de meilleures conditions de vie.
La solution, selon lui, des avantages fiscaux pour les produits de traitement et les engrais, investir dans la ruralité en construisant des routes et empêcher par la loi de couper des cacaoyers.
Quand vous allez dans la région orientale et même dans certaines parties de la région occidentale, certains producteurs de cacao ont cédé leurs terres à des investisseurs dans le caoutchouc parce qu'ils ont immédiatement besoin d'argent.
19 000 hectares, c'est la superficie de cacaoyer détruite par les mines d'or illégales en 2022. Un fléau difficile à endiguer, alors que le régulateur du cacao a annoncé espérer un rebond de la production pour la prochaine saison. Victor Cariou, de retour de Kumasi, RFI.
Prochain rendez-vous éco dans RFI Matin, les matières premières, les pays de l'OPEP+, face à l'impossibilité de faire remonter les cours. Puis dans Aujourd'hui l'économie, les dossiers brûlants qui attendent le futur gouvernement français. Et voici le sourire de Maman. Les autorités gondouanaises sont préoccupées par l'évolution de la crise post-électorale sur les bords de la Seine.
Oui, notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, a réuni son cabinet de crise pour faire le point sur la situation en République de Mbengue, capitale Paris, depuis les dernières élections législatives où, malgré les chiffres définitifs sortis des urnes, il paraît que personne n'a gagné et que, même si la gauche est arrivée en tête, eh ben, elle a perdu et que, comme dit la Bible, les derniers seront les premiers. Président fondateur a chargé notre ministre des Affaires étrangères de faire part de sa disponibilité à assister les deux parties
dans la recherche d'un règlement rapide de cette crise post-électorale qui prévaut en République de Mbengue, capitale Paris. En effet, président fondateur, du haut de sa stature de spécialiste en élections, reconnu internationalement, n'a pas manqué de relever que les autorités mbenguistes ont commis une erreur majeure dans l'organisation de ces élections. Bah oui, ils auraient dû faire appel à des observateurs internationaux pour surveiller leur processus électoral. Tous les problèmes viennent de là, hein. Sans observateurs internationaux gondouanais dans les bureaux de vote à Paris, Marseille ou Bordeaux, bah comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de discussion sur les résultats électoraux ? C'est normal que les perdants disent que les gagnants n'ont pas gagné, qu'il n'y a pas de vainqueur et que donc les sortants restent. Néanmoins, les autorités gondouanaises se sont dit disponibles à accompagner les autorités mbenguistes dans un recomptage des bulletins bureau de vote par bureau de vote. Oui, c'est le seul moyen infaillible pour désigner un vainqueur sans contestation. Les mbenguistes, ils savent ça, puisque c'est toujours ce qu'ils nous disent de faire quand il y a problème ici. Excellence, président fondateur, c'est déjà du passé tout ça, puisque votre collègue a déjà nommé un premier ministre, hein.
Petit, je connais cette tactique-là. J'ai déjà fait ça ici, mais ça va pas empêcher l'opposition de continuer à faire du bruit, hein.
Il a raison, président fondateur. D'ailleurs, l'opposition a déjà commencé à manifester ce week-end, hein, et on sait comment ça va évoluer. On connaît ça au Gondwana. L'opposition va manifester encore et encore, et bien sûr, les homologues mbenguistes de Sergent s'en fout la mort des autres vont les chicoter. Puis, après, l'opposition va enchaîner sur des grèves générales et des opérations villes mortes sur toute l'étendue du territoire. C'est pour cette raison que notre leader bien-aimé, président fondateur, appelle les deux parties à la retenue et se propose un médiateur pour résoudre cette crise post-électorale. Il va bientôt inviter chacun des protagonistes à son palais de Gondwana City, notre belle capitale, pour tenter d'amener chacun à accepter la vérité des urnes. À demain.
À demain, Maman, et merci. Vous restez avec nous sur la Radio du Monde dans une minute. C'est le journal.
Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi les chouettes effraient ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Leur aspect fantomatique, leur vol furtif, leur chuintement allié à un regard perçant alimentent toutes les superstitions. Comment mieux connaître ces oiseaux de nuit au comportement si proche du nôtre ? Pourquoi les chouettes effraient sont très chouettes ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Allons-nous réussir à préserver une planète habitable pour tous les humains en harmonie avec l'ensemble du vivant ? C'est la question à laquelle nous répondons chaque semaine dans C'est pas du vent. La bonne nouvelle est que nous connaissons le chemin pour y parvenir. Toutes les solutions sont à notre portée.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.